Sol majeur.
Sol majeur.
Ré sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Depuis belle lurette, en France, on connaît Monsieur Nguyen Ly. Alors jusqu'à hier, je prononçais encore Nguyen Ly, et puis un petit coup de fil aura suffi pour réaliser aussi que ce grand du jazz est un métissé qui a pris son temps. Né à Paris de parents vietnamiens, Nguyen Ly est un surdoué de la guitare qui accumule des aventures sonores déroutantes pour les amoureux du karaoké, j'en conviens. Citons Ultramarine, son premier groupe de musique ethno-jazz fusion, puis l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz, dont il devient le guitariste de 87 à 89. Il se retrouvera à jouer avec des Randy Brecker, Carla Bley, Toots Thielemans sous Michel Portal. Suivront les expériences solo et puis ses fameux albums d'exploration. Nguyen Ly va se mettre à chasser autant sur les terres du Maghreb que dans les rizières de la musique traditionnelle vietnamienne. Bonjour Nguyen Ly.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous recevoir, il faut que je le dise, dans ce fauteuil dans sol majeur. Je suis heureuse et puis étonnée. Je vous connais depuis effectivement Ultramarine et pour moi, j'ai pas suivi tous les épisodes de votre carrière, mais enfin je savais que vous existiez et vous étiez un musicien de jazz avec ce nom qui venait d'ailleurs. Et puis donc j'ai l'impression que cet ailleurs vous a finalement rattrapé.
Absolument, c'est devenu une obsession presque, en tout cas le fil directeur de ma carrière.
Une obsession.
Une obsession au sens où... disons, dès que j'ai commencé à vouloir lancer ma carrière personnelle, donc surtout à partir de mon premier disque solo, je dirais que l'identité a été une obsession.
Mais ça l'était déjà, parce que finalement, avec Ultramarine, vous étiez déjà un pied.
C'est vrai, mais je dirais que j'avais pas la maturité que j'ai acquis après.
Vous êtes passé par la Caraïbe, par l'Afrique, pour en arriver à votre Vietnam.
Absolument.
Oui. Est-ce que combiner ce jazz si contemporain qui vous définit quand même, hein, et la tradition vietnamienne, c'est joli sur le papier, mais est-ce que ça fait pas un peu mariage forcé? C'est une question de profane, bien sûr.
Non, mais c'est une question importante. C'est la question de la world musique en général. C'est-à-dire que, parce qu'il y a plein de détracteurs, moi je pense que c'est surtout, je dirais que c'est un phénomène social, c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. C'est le résultat de comment le monde est maintenant. C'est inévitable qu'il y ait de la world music. C'est inévitable que les immigrés, que les enfants d'immigrés produisent une musique qui n'est pas la même que celle de leurs parents, ni celle du pays dans lequel ils existent. Et ça pour toutes les cultures.
Donc c'est un mariage naturel, vous diriez?
Oui, et après, bon, bien sûr, toute la question en tant qu'artiste, c'est comment bien le faire. Là, il y a beaucoup de chemin.
Alors, vous avez une actu, Nguyen Ly, dont on va parler, bien sûr, mais je suis obligée de dire qu'on va déroger à une règle dans sol majeur, c'est que pour une fois, et à votre demande, il n'y aura que vos musiques dans ce programme en sol majeur, mais vous m'avez dit, attention, c'est pas une histoire d'ego.
Oui, il ne faut pas croire que j'ai la grosse tête à ce point.
Non, mais une grosse tête peut-être, mais avec un catogan, donc ça relativise.
Non, c'est surtout que je trouvais que c'était comme cette émission, c'est sur l'identité, la double identité, toutes les rencontres culturelles. En fait, comme je dirais, je fais ça dans tous mes albums depuis plusieurs années. Je fais ça de toutes les manières possibles, et puisque toutes ces autres cultures me fascinent. Mon but, c'est toujours mon rêve quand j'étais petit, quand j'ai commencé à devenir musicien, c'était de pouvoir... créer une musique inouïe, quelque chose qui n'existe pas.
Jamais entendu.
Voilà, le jamais entendu. C'est un rêve. Mais en même temps, pour moi, une des manières d'arriver à de réaliser ce rêve, c'est justement de faire se marier des cultures qui ne sont pas forcément naturellement proches.
Bon, alors on va vous écouter. En même temps, je me disais que c'était quand même une revanche formidable sur toutes les fois où vous ne passez pas suffisamment à la radio. C'était comme mon terme personnel. Donc pour le coup, c'est un vrai portrait musical en sol majeur. On va commencer par votre nouvel album, donc, qui est paru chez...
Act.
L'album Seiyuki, où vous nous faites revivre le voyage en Occident. Et vous êtes escorté d'un percussionniste indien et d'une esthète du koto japonais. C'est un petit instrument à cordes traditionnel japonais.
Oui, il n'est pas si petit, il mesure quand même 2 mètres de long.
Ah oui, mais ça se pose là quand même.
Mais c'est un instrument, il y a toute une tradition.
Alors, expliquez-nous l'esprit de cet album.
Disons que pour moi, comme vous le savez, comme je le disais, je suis obsédé par par l'Asie, par exemple, entre autres. Et ça fait longtemps que je cherche une manière de créer une musique inouïe à partir d'un dialogue entre différentes cultures asiatiques. Parce que là, j'avais fait beaucoup de choses sur le Vietnam, etc. Mais ça fait longtemps que je suis fasciné par la musique indienne, qui est vraiment un monument dans l'histoire de la musique mondiale. Et en fait, ça n'a pu se faire qu'à partir du moment où j'ai rencontré ces deux musiciens, qui sont des musiciens traditionnels à la base, donc qui ont appris au conservatoire la musique traditionnelle comme il faut qu'elle doit être. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est des musiciens d'aujourd'hui, c'est des musiciens modernes qui habitent en France et qui, depuis un certain moment, pas trop longtemps, mais en tout cas qui savent ce que c'est que la musique moderne et qui sont, c'est des improvisateurs parfaits. Sauf qu'ils ont des repères qui sont pas les mêmes que les miens. Moi, je viens du jazz. Et en même temps, et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est le futur de la musique, c'est là. C'est-à-dire, c'est des musiciens qui sont porteurs de leur tradition et en même temps, qui sont modernes, qui sont d'aujourd'hui. Et grâce à ça, on peut créer cette musique.
Donc, un voyage où il est question d'une quête, on va dire, peut-être la quête du Graal bouddhiste. Ça, ce sera une autre question. Nguyen Ly en sol majeur avec Eno. De Sayuki, j'ai bien prononcé cette fois, où il est entouré du percussionniste Prabhu Edouard et de la kotoïste Mieku Miyazaki. Lui, c'est Nguyen Ly, de nationalité de jazz, à moins que, première question en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Eh bien, mes parents sont arrivés dans les années 50, en 49 exactement. 47-49, ils sont arrivés pour faire leurs études en France. Et donc, ça n'a absolument rien à voir, par exemple, avec ce qu'on appelle la génération Boat People, qui sont arrivés en... des Vietnamiens qui sont arrivés en 75 pour faire le communisme, par exemple. Mes parents, ils sont, au contraire, ils sont venus en France pour faire leurs études, c'est-à-dire que quelque part, ils étaient favorisés par le gouvernement français. Et donc, ils avaient aussi un rapport assez fort avec la France. En fait, ils étaient assez francophiles. Ce qui s'explique parce que aussi mon grand-père était, disons, pour raconter tout, il était d'une famille assez modeste. Et pour s'en sortir, il est devenu engagé volontaire pour la guerre 14-18. Pour combattre avec les Français, donc. Mm-hmm. Et comme ça, de cette manière-là, il a appris le français, il est devenu traducteur, et en même temps, c'était un lettré. Après, quand il est revenu au Vietnam, il est devenu professeur de littérature vietnamienne au lycée français de Hanoï, le lycée Albert Sarrault, qui était donc un lycée pour les enfants des colons. Et grâce à ça, il a pu amener son fils, donc mon père, à devenir élève de ce même lycée. Donc mon père a suivi une éducation, je dirais presque française, mm-hmm. à Hanoï. Il était déjà à l'époque, il a toujours été très très féru d'études. Et donc pour aller plus loin, la seule solution pour lui, c'était de venir en France.
Un personnage, hein, ce papa qui s'appelle
Lê Thanh Hoi.
Voilà, donc on peut le présenter comme un fils de bourgeois vietnamien, donc lettré. Et puis en France.
Et donc en France, il a commencé à collectionner les diplômes, il a fait du droit, de l'histoire, de l'économie, plein de choses. Et il est devenu petit à petit. Il a commencé à être chargé de cours à l'université. Ensuite, il est devenu consultant pour des organismes internationaux comme l'UNESCO ou le Bureau international du travail. Et en fait, il a commencé à avoir une carrière totalement tiers-mondiste. Il est parti partout dans le monde, en Afrique, pour étudier et aussi donc être consultant. Tout ça au niveau de ce qui s'appelle l'éducation comparée ou les sciences de l'éducation. Et en même temps, il est devenu professeur à la Sorbonne.
Bon, ça travaillait du chapeau, hein, à la maison, avec une maman qui a fait des études de pharmacie, donc oui. Qui est devenue pharmacienne. Vous naissez en 1959, Nguyen Ly, mm-hmm. Donc à Paris. Évidemment, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que la culture vietnamienne cohabite avec votre enfance parisienne?
Oui, j'ai pas vraiment de souvenirs très précis, mais j'avais un environnement assez très vietnamien et par rapport à la langue, par exemple.
On va la garder pour tout à l'heure, la langue, parce que c'est un gros morceau, c'est important. Oui, c'est vrai. Mais il y avait en tout cas votre grand-mère qui vivait ou que vous fréquentiez.
Oui, ils sont pas arrivés dès le début, mais elle est arrivée à partir d'un certain moment et je dirais le principal souvenir que j'en ai, c'était qu'elle était très bouddhiste et donc elle pratiquait tous les jours. Surtout de plus en plus vers la fin de sa vie, et elle priait d'une manière très spéciale.
Est-ce qu'on entendait ce genre de chant à la maison?
Voilà, tout à fait. Sauf qu'elle était toute seule, mais c'est intéressant déjà, rien que musicalement, c'est très intéressant, uh-huh. parce que c'est très rythmique. Je crois pas que les prières catholiques sont si rythmiques que ça. Et j'ai gardé il y a deux outils pour faire ces prières qui sont c'est un bloc de bois sur lequel on frappe donc une petite cloche qui ponctue les paragraphes de la prière.
Alors l'autre contact possible avec votre Vietnam, c'est peut-être la fréquentation avec la diaspora à Paris.
Alors en fait, quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas beaucoup. Oui. Je dirais, j'étais...
J'étais un petit Français comme les autres, quoi.
Oui, d'ailleurs, en fait, je me sentais pas du tout vietnamien. Je me sentais comme tous les autres. Et puis de temps en temps, j'avais des remarques, quelquefois désobligeantes, mais ça me faisait rien du tout. Ça me glissait au-dessus. Qu'on me disait que j'avais le nez aplati, par exemple...
Non, fichier.
Ouais.
Ouais. Au-dessus déjà. Alors, ce contact avec. Il y avait quand même au moins une fois dans l'année, vous saviez que vous veniez du Vietnam.
Oui, absolument. Il y avait un grand rendez-vous de la communauté vietnamienne. Alors peut-être il faut que j'explique aussi que la diaspora vietnamienne dans le monde entier, en fait, elle est divisée en deux pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y a les Vietnamiens, je dirais, pas forcément pro-communiste, mais disons pro-gouvernementaux, pro-vietnamiens, je dirais. Et puis il y a les Vietnamiens, disons, ou en gros, il y a les Vietnamiens du Sud et les Vietnamiens du Nord. Donc ceux du Sud, c'est ceux qui sont restés avec la nostalgie de l'occupation américaine. Et donc c'est pareil, c'est surtout ceux qui sont partis aux États-Unis. Il y a toute une espèce de ghetto qui s'est fabriqué, par exemple, à côté de Los Angeles.
Et cette scission s'est recréée au sein de la diaspora.
Voilà. Donc ma famille, on était plutôt du côté pro-gouvernemental, et donc on allait dans la fête du Tet. Le Tet, c'est le Nouvel An. On allait à la célébration du Tet qui se passait à Maubert Mutualité. Et je me rappelle très fortement des années pendant la guerre contre les Américains. Il y avait des fois une espèce de foule en liesse qui regardait les films de. Il y avait des films de propagande, bien sûr. Et puis il y avait des films de guerre. Il y avait des images d'avions américains sur lesquels les paysans vietnamiens tiraient avec des fusils. Et incroyablement, ils réussissaient à abattre des avions comme ça. Et je me rappelle de la foule qui se mettait à hurler de joie. Et ça m'a beaucoup marqué.
Et pendant ce temps-là, vous faisiez votre petit bonhomme de chemin, Nguyen Ly, parce que vous, ce qui vous intéressait, c'était la musique. Vous avez commencé par la batterie, et puis Deep Purple est arrivé dans la chambre, donc vous avez suivi avec la guitare. Donc on va en arriver très vite, je saute les étapes. Mmh. Au deuxième morceau de votre programme musical entièrement consacré à vous, à quelle période de création et d'introspection correspond ce morceau qu'on écoute, Rukon Nambo?
Alors en fait, ce morceau, c'est un morceau qui m'est très cher, qui revient un peu, qui est revenu plusieurs fois dans mes disques. C'est un morceau qui m'est très cher parce que c'est tout simplement ma mère qui me le chantait comme une berceuse. Et cette version-là, donc ça, c'est la version de mon dernier disque.
On l'écoute ?
Oui.
De jazz en sol majeur qui revient dans la seconde partie de l'émission nous parler du porc au caramel, je m'avance peut-être, et de son Maghreb intérieur. Ça existe ?